Voilà donc, bonjour chères auditrices, chers auditeurs. Nous sommes vendredi le 31 mai et vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du mouvement Action Justice. Une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices de notre société contemporaine. Donc une émission qui favorise la parole de la victime prioritaire. Pourquoi ? Parce que les victimes deviennent de plus en plus nombreuses au Québec. Alors aujourd'hui, chers auditeurs, nous arrivons à notre dernière émission qui marquera notre pause de l'été. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas eu encore la chance de participer, nous allons reprendre avec eux septembre prochain. Cette série de dénonciations qui a porté ses fruits devra continuer à exister aussi longtemps qu'il le faut. Donc il faut étaler justement cette saleté à la lumière du jour. C'est le seul moyen pour stopper ou ralentir la dégradation de nos institutions gouvernementales, puisque c'est l'abus de pouvoir qui fait défaut. Alors nous sommes des citoyens libres dans une société libre. Et nous avons des devoirs et des obligations envers cette société, une société qui est la nôtre. Voilà pourquoi nous devrons malgré tout participer, et je dis bien participer, nous sommes tous concernés, il faut multiplier les efforts, conjuguer les voix et les rassembler. Donc le travail qui nous attend est énorme, se dresser en mur contre les abus de l'autorité et l'injustice dans toutes ses formes. Alors c'est votre engagement, cher auditeur, qui fait toute la différence. Participer à stopper l'injustice, dire non à l'abus de l'autorité, refuser les inégalités, dénoncer l'injustice sociale, politique et économique. Nous sommes des citoyens libres face à un système qui a fait de nous des esclaves en fonction mécanique, inconscient, en marche, en cours, du matin au soir, mais en avant jamais. Nos droits les plus fondamentaux sont bafoués. Dans l'un des pays les plus riches au monde, des citoyens meurent en attente d'avoir un lit à l'hôpital. Dans l'un des pays les plus industrialisés au monde, des citoyens cherchent un travail depuis des décennies sans parvenir, laissant le soin à la précarité de les déstabiliser à jamais. Alors, dans l'un des pays aussi, soi-disant le plus reconnaissant envers les droits de l'homme, envers la justice, envers le respect des citoyens québécois se suicide chacun de ne pas avoir eu justice. Alors des citoyens qui s'isolent même dans l'ombre pour disparaître graduellement, des citoyens qui ont perdu confiance dans notre système judiciaire, envers nos institutions, envers l'État elle-même. Alors il faut le dire que cette dernière trouve énormément de difficultés à gérer son propre agenda. Les promesses politiques sont devenues des armes de destruction et les citoyens continuent de s'en détacher progressivement vers le vide. Le vide, justement, qui fait peur à tout le monde. Alors, justement, dans cette même veine, j'ai visité cette semaine une famille ici à Montréal dont l'enfant a été enlevé par la direction de la protection de la jeunesse il y a presque 5 ans. Alors, à l'entrée, j'ai remarqué une bicyclette d'enfant. Alors, par curiosité, j'ai demandé justement, cette bicyclette appartient à qui ? Imaginez-vous, c'était à cet enfant qui a disparu de cette maison il y a 5 ans. La mère me disait « La bicyclette de mon fils n'a pas bougé d'ici depuis que la DPJ l'ont pris. » Et par cette occasion aussi, la mère m'a fait visiter la chambre de son fils, ses vêtements, ses jouets, ses dessins, sa petite télévision dans le coin, un petit ordinateur ou ce qui ressemble à ça. Donc la chambre est une merveille, un peu trop propre, trop rangée. Elle est devenue comme un tableau, comme une toile qui raconte l'histoire volée d'un enfant, pas comme les autres. Et la mère m'a raconté comment la direction de la protection de la jeunesse a réussi à détruire la vie de cet enfant, la vie de cette mère, je vous assure. Je vous assure, chers auditeurs, s'il y a une mère qui peut prendre soin de son fils dans ce monde, ne peut être que cette mère-là. La blessure chez cette mère-là semblait trop profonde. L'incompréhension la laisse par moments absente. Bref, la mère a tout abandonné, ou presque. Sa vie s'est vue interrompre. Rien ne bouge vraiment autour d'elle, sinon ce combat qu'elle mène depuis des années pour reprendre son enfant. J'ai visionné aussi la vie de cet enfant quand il était avec sa mère, puis quand il vivait avec... qu'il ne vivait plus avec elle, pardon. Alors, l'enfant n'est plus pareil. La direction de la protection de la jeunesse, elle a fait de lui un être étrange, inconnaissable. Le crime est présent dans l'image. La seule preuve qui reste pour incriminer la DPJ, les agents de la DPJ. Alors, écoutez, sincèrement, depuis cette visite, j'ai le cœur brisé. Je ne cesse de répéter de quel putain de droit la direction de la protection de la jeunesse peut aller aussi loin dans sa cruauté envers les enfants au Québec. Bref, face du bien, je dis bien face du bien qu'elle fait cette institution, le mal est énorme, gigantesque, criminel, meurtrier même. Je signe et je confirme, la DPJ et rendu le trop-plein de l'injustice au Québec. Alors je profite aussi de dire à cette mère que j'ai visitée cette semaine, vous n'êtes pas la seule dans votre souffrance, mais qui sait, un jour peut-être, une vraie commission d'enquête révélera l'atrocité de cette institution et les criminels seront traduits devant les tribunaux et répondre à leur acte. Je sais, madame, que ce n'est pas assez pour vous peut-être, mais qu'est-ce que vous voulez? Espérons qu'une autre justice suprême s'en chargera à son tour de faire punir ces criminels. Maintenant, combien je peux vous parler de l'injustice au Québec, je n'aurai jamais assez de temps pour finir, pour la décrire, pour citer des témoins, des exemples, des extraits, dire et redire n'est pas assez. Alors nous sommes impuissants devant ce phénomène qui nous tue chaque jour sans pouvoir faire grand-chose. Cette mère que j'ai visitée cette semaine me disait « Ce qui me fait le plus mal, monsieur, c'est d'être là, j'observe en brûlant de l'intérieur sans pouvoir nullement venir en aide à ce fils qui meurt chaque jour davantage. » Savez-vous pourquoi nous sommes tous devenus impuissants devant les injustices, chers auditeurs, chères auditrices? Devant l'abus de pouvoir, parce que nous ne sommes pas solidaires, parce que nous ne sommes pas interpellés par le malheur de l'autre. Et aussi longtemps, je dis bien aussi longtemps, qu'on n'évolue pas vers ce changement, nous resterons esclaves d'un système qui nous écrase, qui nous vide de toute dignité et de toute considération. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de faire témoigner deux personnes. Chacun a derrière lui, bien sûr, une histoire, une injustice qui refuse, qui rejette. Chacun de ces deux victimes lutte depuis des années pour atteindre ce que nous appelons la justice. Et malgré que toutes les portes se sont fermées devant eux, ils continueront de dire non. Aujourd'hui, ils sont ici devant moi, un symbole de lutte contre l'injustice. Ils sont là aussi pour vous dire il ne faut jamais, jamais, jamais abandonner. Abandonner pour eux, c'est accepter l'injustice. Abandonner pour eux, c'est encourager l'autre d'abuser de son autorité. Abandonner pour eux, c'est sacrifier d'autres victimes. Bref, abandonner, c'est une lâcheté qui refuse à tout prix. Alors voilà, vous allez voir que l'un de ces victimes, malgré son âge, sa santé qui peut, cette santé-là qui peut s'éteindre à tout temps, il refuse de tourner la page et vivre le temps qui lui reste en paix. Quel est le mystère de ces hommes qui n'arrivent plus à se débarrasser d'une injustice, de tourner la page et vivre autre chose? Avec mes deux invités ce matin, on tente d'avoir une réponse à cette interrogation. Alors, personne ne devra accepter l'injustice, personne ne devra accepter les abus de pouvoir. Nous sommes tous appelés par le devoir du citoyen de lutter contre. Au micro avec vous ce matin, Hadj Zitouni, porte-parole du mouvement Action Justice, un organisme qui fait, soi-disant, la surveillance civile de nos institutions judiciaires afin de prévenir et dénoncer leur abus de pouvoir et leur injustice. Cette émission est pour vous dire il ne faut jamais, jamais s'affaiblir devant une injustice. Restez à l'écoute, le témoignage qui suit est un exemple à suivre.
Sur les problèmes de société, coup d'héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes, sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table, à condition d'être masqué, un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique. Vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique pour nous aider à retrouver tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés. Ce soir, je vous lance un appel, vous seul pouvez nous renseigner. Dans quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer ? la fortune. La main de ma sœur, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société. Une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Tout ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Entre qui saigne et qui charcute, entre bourreau et torturé, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé. Entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis, comme une apothéose, entre SS et des portés. Ce soir, après la roue de la fortune, un baffe obscène est à la lune.
Alors voilà, rebonjour, chers auditrices, chers auditeurs. Vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville avec votre émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Avec nous, alors aujourd'hui, j'ai deux invités. Le premier, c'est justement Monsieur Josier Philippe Kendi, c'est ça ?
C'est bien ça,
merci,
oui.
Merci d'être ici. Oui. Et j'ai aussi un autre invité que vous le connaissez probablement, c'est Monsieur Jean-Noël Mathieu et les balles de golf. Ça nous dit beaucoup, les balles de golf, depuis 1991, cette histoire-là. Cette histoire-là, elle se détaille jusqu'à aujourd'hui.
Jusqu'au 2013, aujourd'hui.
Merci d'avoir accepté notre invitation, parce que pourquoi je vous ai invité ? Je vous ai invité parce que vous êtes des personnes, pour moi, que vous n'avez jamais baissé les bras devant l'injustice. Vous êtes des personnes qui luttent jusqu'à présent pour cette injustice-là. Moi, ça me semble un petit peu, quand même, c'est pas étrange, mais je trouve ça très fort de votre part, monsieur Jean-Noël Mathieu, que depuis 24 ou 25 ans, je ne sais pas combien, depuis l'événement, vous n'avez jamais accepté de tourner la page.
Non, jamais.
Et vous continuez jusqu'à présent ce combat-là.
Jusqu'à mon dernier respire.
Voilà. Alors maintenant, je commence directement avec Monsieur Kendi. Bonjour, oui. Kendi, monsieur, vous êtes un citoyen montréalais.
Oui, bien sûr, oui.
Je dis un citoyen montréalais. Oui. Et alors, vous vivez ici. Si on revient avec vous un petit peu en arrière à cette date de 25 juillet 2010, vous avez un accrochage avec un commis d'un dépanneur.
Exactement, oui, c'est
alors,
bien ça.
Alors, un accrochage, vous n'habitez pas loin de ce dépanneur-là, je pense.
Non,
que vous
vraiment
connaissez,
pas. Oui, oui, je connaissais aussi. Ce jeune, oui.
Alors, vous avez un accrochage avec un dépanneur, il y a un signalement, un appel de 911,
exactement.
Et la police s'embarque.
Oui, non, la police est venue parce que moi, j'étais à l'extérieur à ce moment-là. Oui. J'étais en train d'attendre la police pour que je puisse
expliquer
d'abord, oui. Justifier d'abord et ma situation avec, oui, avec le commis.
Oui, mais il semble que le poste de police, il vous connaissait déjà. Donc,
eux autres, ils me connaissent par rapport à ma situation financière, ouais. Ma voiture, ma maison, ouais. et mes bijoux, qu'est-ce que j'ai, afin que automatiquement je travaille pour qu'est-ce que j'ai.
Oui, je comprends. Alors, vous travaillez, hein?
Et oui, bien
sûr. Vous avez toujours travaillé. Hein?
J'ai toujours travaillé pour tout qu'est-ce que j'ai.
Ce que vous m'avez dit, M. Kendi, c'est déjà, vous savez que les policiers ne vous aiment pas, hein, à peu près. Là.
Oh non, c'est
le policier de carte, quel quartier le
policier? C'est le police de Montréal-Nord, eux autres.
De Montréal-Nord.
Exactement.
Alors, parce que vous êtes de race noire, c'est ça?
Je suis de race noire, premièrement. Ouais. J'ai une belle voiture et j'ai des bijoux. Et ça ne marche pas pour
eux. Un noir, il ne devra pas avoir une belle voiture.
Non, vraiment pas. Pour eux autres, non.
Pourquoi vous n'achetez pas une Hyundai?
Non, ce n'est pas ma personnalité. personnalité.
Alors, je reviens un petit peu à cet événement-là du 25 juillet 2010. Alors, les policiers viennent, ils vous voient. Ah, c'est monsieur Sasek Indi, ça, c'est ça?
Exactement,
qu'est-ce,
oui.
Qu'est-ce qui t'est arrivé?
Madame Compassi elle m'a sauté dessus avec sa matraque, avec sa matraque rétractable. Elle a commencé à m'étouffer. C'est complètement inhumain.
Mais pourtant, vous étiez debout, vous attendez les policiers.
Exactement.
Alors, comment pouvez-vous nous expliquer pourquoi ils agissent de cette manière-là? Est-ce que vous avez résisté ou quoi que ce soit?
J'ai pas résisté du tout. C'est un profilage racial qui est très élargi à Montréal. C'est complètement inhumain et inimaginable que des personnes de couleur noire à Montréal sont victimes de ces personnes.
C'est l'histoire, on la connaît. Hein, oui. C'est long à dire.
Exactement.
Mais je reviens juste à votre histoire vous-même. Alors, c'est quand même bizarre parce que là, ils vont sauter sur vous. Là, il n'y a pas de résistance, il n'y a rien. Vous êtes là, vous les attendez. Alors,
exactement.
Alors, une fois, ils vous ont minoté par terre ou c'était quoi?
Oh non, ils m'ont minoté. Je me suis laissé faire et j'ai été au poste de police.
Okay. Ils vous ont conduit au poste de police.
Oui.
Est-ce qu'il y a des chefs d'accusation contre vous au départ? Ils m'ont dit que vous êtes en état d'arrestation, blablabla. Ils ont lié vos droits.
Vraiment pas. C'est arrivé au poste de police qui m'ont dit que j'étais en état d'arrestation.
Okay, exactement. Parfait. En état d'arrestation, c'était quoi les chefs? Quel chef d'accusation?
Oh, menace de mort, c'est ça qu'ils m'ont dit.
Ah, parce que le commis, il a dit que vous l'avez menacé de mort.
Mais le commis, plus que je suis un homme quand même qui est assez connu à Montréal, j'étais quand même depuis 1992 dans le mouvement du hip-hop, ces policiers n'aiment vraiment pas la manière qu'on essaie de s'établir et essaie de percer le marché de la musique, mais ces policiers sont complètement...
Vous êtes musicien?
Exactement, oui.
Okay. Pour vous, ces gens-là, ces policiers, ils vous connaissent, et puis c'était une chance ou une occasion pour eux pour vraiment...
Exactement, c'est tout à fait inimaginable, c'est un coup monté que j'ai eu, et puis...
Coup monté, c'est un petit peu trop, mais peut-être c'est une occasion, je dirais plus, peut-être c'est une occasion pour eux. C'était la bonne occasion.
C'est l'occasion parfaite, qu'ils m'ont fait.
Alors, vous rentrez dans le poste de police, là, qu'est-ce qui se passe, là, rapidement?
Au poste de police, j'étais en cellule, et puis...
Ils ont mis en cellule?
Ils m'ont mis en cellule, et puis il y avait un autre détenu à ce moment-là, et puis à travers les barreaux, il m'a craché dessus.
Pourquoi? Parce que...
Vous le
connaissez?
Oui, je le connais.
Okay. Puis, c'est quelque chose de personnel?
Oui, c'est quelque chose de personnel.
Le détenu qui était là, dans l'autre, en face de vous, il vous crache?
Il me crache à travers les barreaux.
Alors, vous avez fait le même, j'imagine?
Non, j'ai pas pu parce qu'il était quand même à une certaine...
La distance, assez
une certaine distance, ça fait qu'automatiquement... J'ai dit, il m'a craché dessus.
Tu as appelé la police?
Appelé les policiers, il m'a dit, il m'a craché dessus. Et puis, le détenu a dit à les policiers qui sont venus, transférer ce nègre en Capitolé. Et puis, c'est ça qu'ils ont fait. Ils m'ont pris, et à partir de ma cellule, et moi, quand je passais, je l'ai craché dessus aussi, à ce détenu, et un policier m'a bondi dessus, il m'a étranglé. Il m'a étranglé et puis il y avait deux policiers derrière moi. Ils ont commencé à me battre, à me matraquer de coups de toutes les côtés.
Mais ça, c'était arrivé dans la cellule, hein, dans le poste de police. Ça veut dire qu'il y a une caméra de surveillance quand même.
Oui, bien sûr, mais la déontologie policière, ils m'ont toujours nié qu'ils n'avaient pas la caméra.
Et c'est ça le problème. C'est-à-dire, normalement, dans un centre comme celui-là, il devrait avoir le minimum, au moins, avoir une caméra de surveillance. Et vous êtes presque certain qu'il y avait cette caméra-là, mais ils ont étouffé cette preuve-là de côté.
Exactement. Oui. C'est depuis le 25 juillet 2010 qu'ils étouffent cette affaire, cette brutalité, c'est horrible qu'à Montréal.
Alors monsieur Kindi, ce qu'ils vous reprochent, ça c'est autre chose, c'est un autre dossier, mais ce que vous reprochez, j'étais battu par ces policiers-là.
Exactement.
Dans la cellule, au centre opérationnel
de L'Angelier. Exactement.
Et la déontologie policière ou le centre lui-même a toujours étouffé cette histoire-là, il n'a jamais voulu dévoiler cette preuve-là pour que justice soit faite.
Oui, ils l'ont dévoilé à la déontologie policière et la déontologie policière m'a toujours nié qu'ils n'avaient pas la
mais
caméra.
Comment vous savez qu'ils l'ont dévoilé à la caméra?
C'est par rapport à leur rapport et ils me détaillent toutes les faits.
Toutes les
faits à la minute près.
OK.
Afin que automatiquement, ils ont cette caméra. Afin qu'automatiquement, c'est une preuve.
Est-ce que vous avez déposé une preuve contre les policiers voie de fait?
Oui, j'ai été au poste de police.
Vous avez déposé la plainte?
J'ai déposé 3 plaintes criminelles contre ces policiers. Mais ils m'ont jamais donné... Ils m'ont jamais envoyé une lettre à la maison. Oui. Parce qu'un policier ne peut pas porter plainte contre un autre policier. C'est une gang. C'est une gang.
Je comprends. Il n'y avait pas de suivi dans votre dossier.
C'est une œil de loup.
Ouais. Exactement. Parce que ces genres de personnes, même quand j'étais plaqué au sol, oui. et j'ai été violé.
Oui, oui.
J'ai été violé. Et puis, on le voit sur la caméra. Ils ont pris mes parties génitales. C'est tout à fait dégueulasse.
C'est dans le centre,
à l'Angelier, et j'ai toute la preuve.
Vous avez des fractures aussi?
Oui, j'ai une fracture à la clavicule. Et quand le policier m'étouffait en se retirant, il m'a donné un coup de pied
à la clavicule. Mais jusqu'à présent, personne n'a peur. Vous n'avez pas eu. Je ne sais pas, il n'y a pas de poursuite contre ces policiers-là qui ont attaqué.
Oh,
la déontologie policière, le côté administratif, il n'y a rien qui a fonctionné non plus.
C'est une vraie bavure policière qu'eux autres, ils ne veulent pas sortir parce que c'est tellement grave la manière qui se sont pris à un être de Montréal ou à un être noir ou à un être humain. C'est tout à fait dégoûtant.
Et aujourd'hui, je vote sur vous. Est-ce que c'est une frustration que vous sentez aujourd'hui?
C'est pas une question de frustration, c'est une question de justice, c'est une question de ces criminels. Quand un criminel fait quelque chose, le criminel...
Il paye pour ça.
Il paye, on va en prison.
Il paye pour son acte.
Exactement.
Mais l'impunité...
Mais ces policiers n'ont jamais payé. Oui. Avec eux, automatiquement, ces policiers sont des criminels. Oui. Et
on ne généralise pas, peut-être pas tous, mais dans votre cas, malheureusement, c'est ça ce qu'on observe. Alors, chers auditrices, chers auditeurs, c'était vraiment Josie Philippe Kendi. Il revient avec cette histoire-là qui était déroulée le 25 juillet 2010, et vous avez vu avec un accrochage entre lui et un commis. Alors, il se retrouve dans un centre opérationnel, battu, et n'a jamais pu aboutir à une justice, malgré toutes les démarches qu'il a fait. Aujourd'hui, il vient dénoncer tout ça, et il le dit sincèrement, est-ce que vous n'avez pas envie de tourner la page et passer à autre chose?
Oh non, je ne peux pas, vraiment pas, jamais. C'est jamais, jamais, jamais.
Je vais continuer
à me battre jusqu'à la fin de mes jours.
Alors voilà, on va chercher faire une petite pause musicale, on va revenir avec notre deuxième témoin qui est là, M. Jean-Noël Mathieu, et les balles des golfs.
Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé. Ils m'ont porté de l'école à la guerre. J'ai traversé sur mes souliers ferrés le monde et sa misère. Moi, mes souliers ont passé dans les prés. Moi, mes souliers ont piétiné la lune. Puis mes souliers ont couché chez les fées et fait danser plus d'une. Sur mes souliers, il y a de l'eau, des rochers, de la boue, des chants et des pleurs de femmes. Je peux dire qu'ils ont respecté le curé, le pays, le bon Dieu.
Alors voilà, rebonjour chers auditrices, chers auditeurs. Vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Alors c'était la première histoire, c'était l'histoire de M. José Philippe Kendi. Vous l'avez suivi, et puis je pense qu'il a autre chose à nous dire aussi, mais on va d'abord passer à M. Jean-Noël Mathieu. Votre histoire, M. Jean-Noël Mathieu, là, elle dure depuis 1991. Est-ce que c'est exact?
Ou 91, oui.
Ou 91. C'est tellement... On parle de...
Soit de balle de golf.
Oui.
D'une famille.
D'une famille de balle de golf qui était
détruite. Un enfant de 12 ans, mon enfant, ma femme, puis moi.
Mais on sait bien que cette histoire-là, quand même, a été étalée sur les journaux.
Ah, c'était à la télévision, Jean-Luc Mongrain, TQS, Benoît Transmontagne de 105.7.
Et à travers tout ça, ça n'a pas pu aboutir à une justice.
Non, exactement.
Malheureusement. Est-ce que pouvez-vous juste nous rappeler un petit peu de l'histoire rapidement, là, pour que les gens qui ne le savent pas...
Donc, en partant, mon nom, c'est Jean-Louis Mathieu, Saint-Jean-sur-Richelieu. Je suis un ancien fonctionnaire de la Défense nationale. Donc, l'histoire commence en 91, un enfant qui vendait des balles de golf, et puis la police, pour une raison ou une autre, ils ont arrêté ma femme, moi, dans cette affaire-là, et mon fils.
Parce que, parce que votre enfant de 12 ans, il vendait des balles de golf.
Il vendait des balles de golf sans permis.
Sans permis, voilà, sans permis.
Il y a eu une poursuite de 125 000 contre la ville, l'arrestation illégale, juste une plainte qui est portée en déontologie policière, et c'est là que ça commence à débouler. En 93, je passe devant le comité déontologie policière.
Vous, c'est aujourd'hui, ce qui vous amène, c'est la déontologie policière,
la déontologie, et je veux dénoncer le commissaire à la déontologie policière, M. Claude Simard.
M. Claude Simard, il est dans son poste depuis 2000, j'imagine.
Il a été nommé à son poste en 2000, puis il est dehors, ça fait déjà trop longtemps qu'il est
dehors. Et depuis 13 ans, il est toujours là.
Il est 13 ans, puis c'est, oubliez ça, il est très, très rentable, le gouvernement.
OK, revenons un petit peu à cette histoire.
Bon, là, on s'en va jusqu'à un moment donné qu'en déontologie policière, c'est des bandes audio.
Et puis, il y a une falsification. Hein. Il faut expliquer que les policiers du poste de Saint-Jean-sur-Richelieu
fabriquent
une
bande audio.
Voilà.
Ils font un montage audio.
Donc ils ont falsifié un peu les preuves.
Oui, mais pas les policiers. Faites attention. Un policier. Qui s'appelle le sergent détective Yvan Huard.
Et avec cette falsification, ils ont pu quand même vous condamner.
Oui, alors ils ont pris cette preuve-là.
Oui.
Et puis, ils l'ont déposé à la déontologie policière.
Oui.
À partir de là, les policiers ont gagné. Ils ont eu gain de cause. Mais qu'est-ce qui est grave, et que c'est là qui est le plus grave, c'est que l'enquêteur du commissaire, un nommé Pierre Liot, un ancien gars de la Sûreté du Québec, qui travaillait pour le commissaire à la déontologie policière, on lui remet l'enregistrement original de la conversation que j'avais eue avec le directeur Poirier. Il va la faire disparaître.
Elle n'existe plus.
Il a fait disparaître avec la complicité du sergent détective Yvan Huard de Saint-Jean.
Et ça, c'était un enquêteur de la déontologie policière.
Oui, un enquêteur. Il va en recevoir deux autres. Parce que j'ai eu deux téléphones. Il va les faire disparaître toutes les deux avec les lettres de correspondance de ces deux enregistrements-là. Disparaître de son dossier au complet.
Et de tout ça, il y a une création d'une nouvelle preuve.
Et durant ce temps-là, le policier de Saint-Jean, Huard, avec la complicité de l'enquêteur, du commissaire Pierre Viau, il va laisser passer le policier de Saint-Jean, l'enquêteur, fait sa preuve, puis lui, il va tout effacer la preuve qui pourra me donner raison. Autrement dit, tu comprends ce que je veux dire? À partir de là, la fraternité des policiers me poursuit quand ils entendent l'enregistrement en déontologie. Mais la fraternité, je ne le sais pas que le boss Huard avait fabriqué ça. Eux autres se sont fiés à l'enregistrement qu'ils écoutaient. Ils m'ont poursuivi. Ils m'ont poursuivi durant les audiences. En pleine audience, ils me poursuivent pour avoir déposé une plainte sans fondement. Il y a une poursuite qui se prend. En 99, on arrive devant à Saint-Jean-sur-Richelieu et j'essaie d'avoir les enregistrements des audiences de 93 en déontologie policière, au comité déontologie, les enregistrements pour démontrer qu'est-ce qui s'est dit là. Tout le monde, il avait tout disparu.
Il n'y a rien.
Il ne savait même pas qui a été détruit. Ainsi de suite, tout a disparu.
Et ces preuves-là, c'est vous qui avez donné ces preuves-là en main?
Non. C'est les enregistrements des audiences. Quand tu es d'une cour, il y en a juste.
Je parle de l'enregistrement de la.
Oui, la vraie conversation.
La vraie conversation, vous avez donné entre les mains d'un enquêteur de la déontologie policière.
Exactement.
Qui devra normalement conserver.
Il a fait disparaître. Et quand tu vas voir. Quand on dit qu'il ne faut pas lâcher prise. En 99, là, je suis condamné. peux être déposé. Et là, je peux de prouver qu'il y a des policiers. Pas les policiers. Le sergent détective Huyard a fabriqué cette preuve-là. Alors, je dis devant le juge Morgan, en 99, monsieur le juge, c'est pas vrai, c'était un montage. C'était un montage de trois conversations, monsieur le juge. Et j'étais un menteur.
Quand ils ont fait entendre les. Ouais. Vous avez entendu de nouveau
l'argent.
Tu as dit, mais qu'est-ce qui se passe là?
C'est un montage.
Tu as compris.
Alors, tu vois bien qu'est-ce qui va arriver. Le juge me coordonne en 99. Et c'est là que c'est très important. Et à partir de là, en 2000.
Mais le juge, il vous a condamné à quoi?
Il m'a condamné à 16 000 les frais, en tout cas. En fait, si tu calcules tous les avocats qu'il y a eu dans ça, 70 000. En tout et partout. Depuis 91, qu'on parle. Là, moi, j'ai dit. J'ai regardé ma femme, j'ai dit, écoute bien, mon ami, ma chérie. J'ai dit, c'est le combat de ma vie. C'est le combat de ma vie.
Je vais continuer.
Je vais trouver les salauds qui ont fait ça.
Oui. Exactement.
Puis je savais que c'était pas la fraternité, c'était pas la fraternité qui était en arrière de ça.
Non.
C'était la ville de Saint-Jean, la fameuse action de 125 000. Oui. C'était la ville de Saint-Jean avec un avocat de la ville de Saint-Jean qui était impliqué. Oui. Puis ils vont faire disparaître les preuves originales pour la remplacer par un montage audio avec la complicité du détective Yvan Huard Saint-Jean-Saint-Lieu. Et combien que tu es en 90, en 2000, Huard vient témoigner devant le juge Morgan, puis il dit au juge Morgan, non, on a pris ça sur la bande originale, puis sur la grosse bobine, on parle d'une bobine de 18 pouces, là, de diamètre, puis lui, il est arrivé avec une micro-cassette, monsieur le juge, c'est bien la conversation qu'il y a dessus, toute l'affaire. Puis j'ai, moi, qui étais au laboratoire, l'a porté, tout ça. Mais tiens-toi bien. En 2000, quand j'ai été condamné, le juge, il arrive un nouveau commissaire à la déontologie policière qui s'appelait Maître Paul Monti. Un homme extrêmement honnête. Paul l'a perdu. Parce qu'il était, il était malade, il était tendu. Oui. Extrêmement honnête, ce commissaire-là.
Pourquoi vous dites que c'est honnête en quoi?
Ben, attendez bien. Il me fait rentrer en contact puis il veut me voir. Il dit, comment ça se fait que vous avez été condamné devant un juge pour avoir déposé une plainte sans fondement à la déontologie policière.
Ça n'a pas de sens, là.
Ça n'a pas de sens. C'est pas vous qui avez porté la plainte, c'est comme ça.
C'est décourager tout le monde de ne pas déposer une plainte. Oui.
Fait qu'il dit, moi, je veux savoir ce qui s'est passé. Et là, c'est là qu'il me dit, monsieur, nous allons faire une enquête.
Ah, c'est ça, c'est lui qui a
déclenché l'enquête. L'enquête qu'on va faire, ça va être contre Huard, plus que ça, contre ses employés qui étaient impliqués dans ça. Mm-hmm. Qui étaient les criminels du commissaire? C'était ça qu'il voulait savoir.
Oui.
Alors, ils vont engager une agence privée qui s'appelle Chatran à Framboise, qui est aujourd'hui Garda. Cette compagnie-là, ils vont prendre un gars qui s'appelle un nommé Max Saunier de la Sûreté du Québec, de Québec, qui est à sa retraite. Il fait une enquête dévastateur qui démontre effectivement que les ventes avaient été manipulées, ça avait été un montage de A à Z, oui. Et Huard, elle savait parjurer à tour de bras, avec la complicité de Dio, du commissaire à la déontologie policière, avec un avocat, l'avocat du commissaire à la déontologie policière, qu'elle, après les faits, elle savait qu'il y a eu des actes criminels par le pas dire un mot, elle s'appelle Maître Caroline Daou, qui est aujourd'hui directrice de l'Ordre des dentistes du Québec. Bonjour, Mme Daou. À partir de là, monsieur, à partir de là, le mouvement Action Justice rentre dans le dossier.
Oui.
Et il a dit, on va aller loin. Alors, il faut une enquête, l'organisme Mouvement Action Justice. Puis c'est grâce aux autres que j'étais loin aujourd'hui. À partir de là, on a été capable de démontrer que les bandes avaient été trafiquées. Puis il y avait une sténographe qui était impliquée dedans, qui s'appelle le nom Agathe Beauregard. Elle avait menti elle-même dans son jugement d'office. La sténographe Agathe Beauregard.
Oui.
À partir de là, il est venu monter ça devant un juge à Saint-Jean qui s'appelle Renaud Dudomaine. Et il a donné le mandat à l'Ouvrement de Chose ici, qui était M. Manceau, procureur ad hoc, comme le procureur de Gouranne.
Oui,
ça l'a ouvert des portes énormes.
Oui.
On a été chercher les notes progressives de Pierre Viau. Et très bien dit, monsieur, il m'a remis un enregistrement à telle date de ma vraie conversation. Oui. Puis les enregistrements qu'il avait reçus qui ont disparu. Les lettres de correspondance qui avaient disparu. On a tout trouvé ça dedans.
C'était quoi la réaction de la déontologie policière quand ils essayaient?
Dans la déontologie, écoutez bien ça. Là, l'enquêteur qui est au dossier, là, il s'est aperçu qu'Huard avait menti. Il y avait. C'est grave, là. La bande originale qui a été déposée au comité des déontologie policière le 28, le 30 juin 1993, c'est la pièce à conviction qui doit aller au laboratoire.
Oui.
Elle disparaît durant les audiences. En pleine audience, elle disparaît. Puis elle va être remplacée par une quatre-traque. Le montage à Huard. au comité déontologie policière.
Oui, c'est...
Et là, ils vont l'envoyer au laboratoire. Et le gars qui va la recevoir au laboratoire, il s'appelle Gilbert Desjardins. Oui. Ingénieur, M. Gilbert Desjardins, ingénieur en balistique aujourd'hui. Il va faire l'expertise présumément sur la bande. Ça va lui prendre 4 mois. Puis il va dire qu'écoutez la bande, puis espère qu'il n'y a pas de montage, tout est bien beau.
Et ça, c'était pas vrai, là.
Alors lui, il renvoie, là, la fameuse Karine Daou, à place de finir l'espère, présumément l'espère, au comité, dit viens jurer ici, oui, j'ai bien fait ça, j'ai bien fait ça, j'ai bien reçu la bande, j'ai bien expertisé la bande. Elle savait qu'il ne l'avait pas fait, puisque la bande n'existait pas. Donc, elle ne l'a pas fait venir. Elle a pris son rapport, puis elle dit j'ai reçu le rapport de M. Desjardins, je n'aurais pas besoin de le faire venir, le rapport parle par lui-même. Et je fais ma cause, puis le policier me poursuit. Et l'espère en question, Gilbert Desjardins, il a été condamné dans l'ordre des ingénieurs. Il y avait 9 chefs d'accusation, ils en ont retenu 4. Tout ce qui réunit l'ont ôté, d'avoir fait un rapport faux, mensongère et trompeur, de savoir par jury, d'avoir dit qu'il avait écouté la bobine originale sur une machine telle quelle qui ne s'était pas vrai partout. Il avait fait son espacier sur une cataracte qui venait, on ne sait même pas de où. OK? Puis le fameux Huard, il était complice avec Desjardins, c'est lui-même, Huard, qui va aller porter, présumément, la bobine du 30 juin 1993 qui a été déposée au comité. C'est lui qui va aller la porter. Comment que Huard va aller porter une bobine qui est déposée devant le comité déontologie policière et dans les mains de Karine Daou et de maître Jean-Guy Gilbert qui présidait le comité? Parce qu'elle tombe dans les mains le 26 octobre 1993 dans les mains de Huard, puis c'est lui qui va la porter. Puis il manque en haut du formulaire du laboratoire que c'est la ville de Saint-Jean qui avait demandé l'expertise. C'était pas la ville de Saint-Jean, c'était le comité qui avait demandé l'expertise, maître Gilbert, le 30 juin 1993. Donc, la bobine qui était portée, Huard, c'était pas la celle qui avait été déposée le 30 juin 1993. C'était un montage. En fait, l'histoire, c'est pas tuer l'action de 125 000.
Oui, mais c'est derrière tout ça, c'est la déontologie policière.
Mais qui est en arrière de toute cette affaire-là, c'est le commissaire à la déontologie policière, ses envoyés. Et c'est là que maître Paul Monti, il y a un an, le 3 novembre 2004, ici, à Montréal, au comité déontologie policière, au commissaire déontologie policière, il y a une rencontre. Il y a un ingénieur qui m'accompagne, M. Jalbert, et puis, pas maître Paul Monti, c'est maître Michel Maurice, l'assistant du commissaire à Montréal, et il y avait l'enquêteur, donc le nom ne me vient pas. Et là, ils me font une offre de 23 000 à 25 000 $.
Ils vous ont fait une offre?
Oh, oui, ça, c'est tout enrichi.
Pour se retirer ou quoi?
Non.
Pour abandonner?
Non. Parce que le rapport de Saunier, l'enquêteur du commissaire, un agent privé, il c'était dévastateur.
Ah, mais...
Il dit, c'est vos employés, monsieur le commissaire qui avait ça, là. Ah. C'est vos propres employés.
Ah,
c'est eux autres, avec Huard à Saint-Jean, là, tout ça. Alors, je refuse le 23 000. Il y avait un plan A, il y avait un plan B.
Oui.
J'ai refusé le plan A, qui était de 25 000.
25 000, oui.
Alors, ça vient d'abord, on est en 2004. En 2005, ils attendent, on a traîné ça pendant 5 ans, hein, le commissaire. En 2005...
Pendant 5 ans?
Oui. Oui. En 2005... Lui, il décide, ils sont bien obligés d'envoyer une réponse, parce que l'enquêteur a fini, là, lui. Puis ça taillait que mon dossier, lui, l'enquêteur s'en allait après, là. Il travaillait pas comme le déontologue policier.
Oui, il se retire, oui.
C'était juste pour. C'était spécifiquement pour ça. Mais j'ai été pas chanceux. C'est plus Maître Ponte qui était là. Maître Paul Monti. C'était Claude Simard.
C'est Claude Simard qui a
eu l'erreur de maître. Là, c'était l'enfer.
Claude Simard.
Lui, là, il écoute bien. Il reçoit. Je reçois la décision du commissaire. M. Claude Simard, c'est moi le coupable, que les bandes ont jamais été altérées, que c'était bien ma conversation. Attends, bien, pas fini. Et puis que Huard, il n'a rien fait. Il dit plus que ça. Il dit, c'est peut-être normal que les machines, qu'il y ait des altérations, mais c'est peut-être les machines qui ont fait ça. Moi, je ne le crois pas. Je rentre en contact avec ce spécialiste-là. Je ne vois pas de nom par respect pour lui. Ouais. C'est un des plus grands spécialistes ici au Québec. Que c'est lui, l'enquêteur.
Vous avez engagé. Vous avez communiqué avec lui?
J'ai communiqué avec lui, je l'ai enregistré. J'ai dit, j'ai reçu le rapport de blablabla. Il me dit, ah oui, non, M. Mathieu, c'est pas ça. Ah non. C'était un montage, M. Mathieu. On a enlevé des paroles.
Ah, ben.
Superposé des paroles. On a mis des paroles à Roff. On a fait un montage, M. Mathieu, là. Pourtant, le commissaire ne sait pas ce qu'il s'est dit dans sa décision.
Ouais.
Alors, je pars par la scène information. Ça m'a pris 4 ans pour me battre contre le commissaire à la déontologie policière. Et j'ai gagné. Et quand j'ai vu le rapport de 31 pages, clairement établi comment ça s'est fait, comment ils ont fait le montage. Et pourtant, le commissaire m'avait dit le contraire. Il avait menti. Et il dit, en plus, il y avait tous les témoignages du sergent détective dans le yard. En 99, quand il a dit devant le juge Morgan, j'ai collecté pour aller chercher la conversation. C'est la seule et unique copie que j'ai. Je n'ai jamais donné à personne d'autre. En 2002, devant le juge Denis Noël, il change sa version complètement. Il dit, j'ai fait une copie à la déontologie ou à la fraternité des policiers avant la déontologie policière. Tu comprends ce que je veux dire? Et je vais dire, j'en ai fait une copie aux autres, et ensuite, puis c'est lui qui a été porté la bobine le 26 octobre, puis c'était pas vrai pantoute. Et le commissaire savait qu'il avait menti. Il savait qu'il savait parjurer. Mais le commissaire, il l'a sauvé, puis il a dit que lui, il n'a pas rien approché à Huard, patati patata, puis c'est moi le coupable. Ouais. Ben, j'ai démontré aujourd'hui, mon cher monsieur, avec des documents qui m'ont coûté 70 000 piastres, par l'accès à l'information, par José Letarte de l'accès à l'information du commissaire de la déontologie policière, par l'accès à l'information, puis à talonner le commissaire, puis le talonner, puis il y a envoyé des femmes, vous êtes un menteur de la pire espèce.
Oui.
Vous méritez pas d'être un commissaire. Puis moi, je vous dis aujourd'hui, si vous laissez depuis un commissaire comme ça, oubliez ça.
Depuis l'arrivée de Claude Simard, vous pensez
depuis que Simard est là, ouais, c'est la bullshit totale.
Ouais, c'est vrai.
Puis je vais vous dire une affaire. Une qui est impliquée dedans, involontairement, qui a siégé devant le comité, elle est encore là aujourd'hui, elle s'appelle Mme Anne Desrèges. Pas Anne Desrèges, voyons comment elle s'appelle, Morissette. Anne Morissette. Elle n'a rien à voir avec ça. Elle est tout au courant dans mon dossier qu'est-ce qui est arrivé. Donc, on a fabriqué de la preuve, et cette preuve-là a été fabriquée par des employés du commissaire avec la complicité de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et ça m'a coûté 70 000, et je vais me battre jusqu'à mon dernier respire.
Et le commissaire était au courant de tout ça, et c'est lui qui a couvert.
Il y a plus que le commissaire. On lui a tout remis la preuve. J'ai remis 118 items que l'enquêteur. Écoute bien, pour finir le plan. L'enquêteur dans mon dossier, lui, il ne me croyait pas, lui. Mais en dernier, là, il me croyait en tabarnouche. Mmh. Je l'appelle, j'ai dit, M. Saunier, c'est M. Mathieu. J'ai dit, viens de savoir la décision du commissaire. J'ai dit, c'est moi, là.
Le coupable.
Le coupable. Pardon? J'ai dit, oui. Il dit, avez-vous le rapport? J'ai dit, oui. Il dit, vous voulez-vous me l'envoyer, s'il vous plaît? Bien, j'ai dit, certainement, je vous l'envoie. J'ai envoyé le rapport par face à Québec. Salut Delquay. J'ai pas de nouvelles de lui. Trois jours après, je le rappelle. J'ai dit, M. Mathieu, il dit, c'est pas mon rapport, mais c'est pas ça pour tout.
Oh my God.
Ça ne reflète pas mon rapport. Mais il dit, M. Mathieu, j'ai pas le droit de vous dire, mais c'est pas ça. M. Mathieu, défendez-vous, c'est pas mon rapport, c'est pas vrai.
Oui.
Le commissaire, là, je sais pas pourquoi il y avait ça, là, mais il dit, c'est pas... En fait, qu'est-ce qu'il a fait le commissaire, là? Le but, c'était sauver, excusez le mot, vulgaire, sauver les fesses du commissaire à la déontologie policière et le commissaire, c'est-à-dire tous ceux qui travaillent là, parce que si demain matin que le ministre aurait su qu'est-ce que des employés ont fait là, je suis pas certain que ça existera encore, le commissaire à la déontologie policière. Je peux vous dire une affaire, que le commissaire à la déontologie policière, s'il sort pas de là, ça n'a pas sens. Ce gars-là, mon boy, c'est un gars de mauvaise foi et un menteur de la pire espèce. Hein, M. Simard? C'est M. Mathieu qui vous parle. Ah oui, moi, une poursuite vous attend, M. Simard. Espèce de menteur.
C'est bon, non, mais vous avez un peu dépassé, il faut dire, avec le respect. On sait que pour vous, depuis l'arrivée de M. Claude Simard, les choses ne fonctionnent pas comme il faut.
Mais pas du tout.
Tout ça basculé, quoi.
C'est de la bouche.
Alors, on va juste faire une petite pause musicale pour reprendre un petit peu votre esprit. On va continuer aussi avec la fin de notre émission.
Si je m'ouvre et te laisse entrer, sauras-tu laisser saigner la plaie? Pourras-tu te laisser dénoyer? Qui me saoule, toi qui m'enivre. Elle qui saigne mon cœur, toi qui le ravive. Ah, 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 délice pernicieux. Ah, 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 douleur des
Sans gêne, moratoire affectif. Manipuler sa flamme pour brûler à vif. Douleur délicieuse.
Alors voilà, rebonjour, chère auditrice, chers auditeurs. Vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Alors, vous avez écouté un petit peu le témoignage de Jean-Noël Mathieu.
Bien sûr, oui.
Vraiment, M. Kennedy, il parle, justement, il dit que depuis l'arrivée de Claude Simard à la tête de la déontologie policière, ça l'a pas aidé.
Vraiment pas.
Ça l'a pas aidé beaucoup. Mais dans votre cas, vous étiez tabassé. Réellement tabassé.
J'étais réellement tabassé.
Oui. Et vous avez une fracture et j'en passe. Et malgré ça, la déontologie policière, ils vous disent que l'enregistrement, la vision, ça n'existe pas.
Oh, ils m'ont toujours nié. Mais dans leur rapport, ils me donnent des détails à chaque heure. Ouais. Et ça existe vraiment.
Mais dans les détails que vous avez, est-ce qu'ils disent que les policiers vous ont tabassé?
Oui, parce que vraiment, avec le CRARR, ouais. Cette action, eux autres, ils m'ont vraiment confirmé que l'enregistrement existait,
ouais,
et qu'elle a été falsifiée par M. Claude Simard, vraiment.
Non, mais on ne peut pas dire Claude Simard, c'est pas lui qui est falsifié. Il y a toute une institution derrière. Hein,
oui, mais la déontologie policière, ils m'ont vraiment ciblé que M. Claude Simard, c'est pas sa première cause.
Ouais.
C'est à chaque fois que c'est vraiment grave.
Ouais.
Claude Simard, vraiment, falsifie complètement toutes les preuves afin que cette personne à la déontologie policière ne devrait pas être là.
Parce qu'il faut faire attention, parce que le CIMAR, il n'est pas, c'est pas un seul élément, c'est toute une institution, hein, il y a des employés.
Il détourne.
Peut-être que.
Il devient comme un curé de la colonne.
J'ai un peu de la difficulté à viser une personne.
De là,
mais
il
viser une personne, je pense pas du tout, ils sont loin de là. Mais peut-être que il le contrôle. Il est un petit peu baissé, un petit peu.
Comment dit, n'est-ce pas la vérité?
Non, vraiment pas, parce que moi, je vous le dis.
Protège les policiers.
Non, c'est pas protéger, c'est à cause que le crime est tellement grave.
Ouais, ouais.
C'est vraiment de la cruauté envers un être humain.
Ouais.
Et que si ça passe aux journaux, automatiquement, ces policiers-là vont être sanctionnés, ils vont perdre leur job.
Ah, je suis pas d'accord.
Oh, oui.
Même à ça. Mais ça passe même aux journaux, là, il y avait des. Écoutez,
exactement, parce que. Par rapport, quand quelqu'un fait quelque chose, quelqu'un paye pour ses actes.
Ouais.
Mais ces personnes, ces policiers n'ont jamais payé pour leurs actes. C'est tout à fait.
Alors, pour vous, c'est la loi de la punité qui dérange.
Savez-vous quelle est l'erreur du commissaire?
Oui.
L'erreur du commissaire puis du gouvernement, c'est que c'est des enquêteurs qui sont là, c'est des policiers.
Exactement.
Non, c'est une meute. C'est de la police qui enquête sa police.
Non.
Et le commissaire Simard, avant d'être au commissaire, il était sous-ministre, ministre soit de la Sécurité publique ou de ministre de la Justice.
Exactement.
Donc, c'était un gars, il n'est pas pour le citoyen. Il n'est pas en tout. Il est là, lui, là.
Pourquoi vous dites qu'il n'est pas pour le citoyen?
Parce qu'il y a la manière qu'il agit, la manière qu'il travaille.
C'est l'État, oui.
L'autre était pas mal plus humain, carrément plus humain, l'autre.
Oui.
Mais pas de mon psy.
Mais c'est bien que
mais
vous,
lui, pas lui.
C'est bien que vous arrivez quand même à faire la différence entre deux commissaires. Bon, celui qui précédait était vraiment pour.
Il était juste.
Oui, voilà, juste.
Lui, quand il fut quelque chose qui ne fonctionnait pas, puis il y a des employés de son ministère qui avaient agi. Ils ont mis notre famille dans l'arbre, là.
Ouais.
Ben, lui, il a dit, un instant, je vais aller voir ce qui s'est passé. Puis après qu'il a vu ce qui s'est passé, il dit, là, faut dédommager Monsieur.
Alors,
parce que
voilà.
C'est grave ce qui vient d'arriver, là.
Parce qu'il était responsable.
Ben oui, mais
devant ses fonctions.
Ouais.
Alors que ce que vous rapprochez aujourd'hui à Monsieur Claude Simard, il l'est pas, c'est ça?
Malheureusement, il n'est pas. Vraiment pas. Moi, je peux l'affirmer aussi.
Lui, là, c'est des policiers, ils sont pris dans une affaire, ses employés, chez eux, là.
Ouais.
check toi, c'est pas eux autres qui vont être coupables, c'est toi. Exactement. Comme tu as fait avec moi, là.
Mais le problème, moi, ce qui me dérange, parce que moi, j'envoie des plaintes.
Oui, c'est
madame. Mais ça aboutit pas.
Et non, ça aboutit pas.
Moi, j'envoie des... Je dis là, vraiment...
Exactement.
À un moment donné, je j'arrive à dire aux gens, je suis désolé de le dire, ça sert absolument à la déontologie, ça sert absolument à rien.
Alors,
c'est une perte de temps.
Il y a des liens que je vais vous compter.
Oui.
J'ai parlé avec des employés du... Je suis assez proche des employés du commissaire de la déontologie policière, qui est dans le temps, là.
Oui. Vous puis parlez de le temps de Claude Simard?
Ouais,
toujours.
Ouais. Et puis, Charles Biépaud dit, qu'est-ce qu'on fasse? On lui dit, mais qu'est-ce que qu'on fasse? C'est comme Max Saunier, l'enquêteur. Lui, il était, les deux bras, ils ont tombé. Il dit, ça a coûté 36 000 piastres, cette enquête-là, au commissaire.
Ouais.
Pour en arriver à dire que c'est moi le coupable. Puis, ça démontre clairement, c'était pas moi le coupable, c'était ses propres employés à lui. Exactement. Puis, l'enquête était, que Maître Paul Montier avait demandé, visait directement des employés du commissaire.
Exactement.
Pour justement arrêter ces magouilles-là.
Mais monsieur Jean-Noël Mathieu, vous pensez que Claude Simard, s'il est toujours présent aujourd'hui, depuis 13 ans, qu'il n'y a pas de changement?
Ben non,
c'est voulu, ça?
Ben oui, c'est voulu.
C'est voulu.
C'est voulu. Parce qu'eux autres, plus ils peuvent enflocher, mieux que c'est.
Exactement. Ouais. Parce que moi, je pense que si la communauté déontologie policière pouvait être à Montréal et non à Québec, ça pourrait régler quand même.
Non,
que je ne peux pas sortir.
Non, mais plus important, M. Kidney, c'est de chercher d'apporter des changements à cette institution-là qui a dit autant du policier.
Regarde ce que j'ai fait. Regarde, je vais donner une idée. Le commissaire, quand j'ai vu qu'il avait. Il m'a donné un rapport. Bon. Trompeur, mais vraiment trompeur, là. Il a détourné la preuve que le comité, que son enquêteur lui a donnée.
Exactement.
Il a tout détourné ça de A à Z. Il a racheté ça le revers de la main. Alors, j'ai dit, ben, toi, attention. Il y a 117 items, 118 items que l'enquêteur avait. Les enregistrements des témoignages, les enregistrements qui ont disparu devant le comité, qui est arrivé, les employés, les notes, tout. En tout cas, il y avait tout ça. Alors, j'ai dit, ben, regarde, qu'est-ce que je vais faire, mon petit bonhomme? Je ressors le dossier et je le remets, si tu veux, en public. Donc, je sors le dossier que j'ai donné à l'enquêteur, les preuves que j'ai données à l'enquêteur, et toutes les notes de Pierre Viau qui démontrent que ce gars-là, qu'est-ce qu'il a fait, et Maître Karine Daou, qui est une des plus grands responsables dans ce dossier-là, elle est avec. J'ai tout omis ça, puis je vais aller au comité déontologie, au commissaire déontologie policière. Il y en a à peu près 150 pages. J'ai fait comme un livre.
Oui.
J'en ai, puis je vais donner ça au monde.
Exactement, mais ça, je comprends vraiment.
Voici le dossier de que j'avance.
Non. Exactement, parce que eux autres, vraiment...
Puis écoute bien, et ils m'ont volé le commissaire de déontologie policière, parce que c'est justement, il a volé ma vieillesse, il a volé ma vieillesse et la celle de ma femme. Parce qu'à 70 000 piastres, j'ai ouvert mon hypothèque, puis je continue encore à payer.
Mais monsieur, j'aimerais bien juste l'informer à nos auditeurs comme quoi monsieur Jean-Noël Mathieu est conduit... C'est un monsieur qui l'a conduit ici à la station de radio aujourd'hui à Montréal. Monsieur Charles Fortin. Monsieur Fortin, pourquoi vous l'avez amené?
Parce qu'il y avait de la difficulté à voir le nom des rues. Il est semi-voyant.
Alors, avec tout ça, hein, vous êtes semi-voyant, presque, ouais. Je vois presque, la difficulté même de voir devant vous, vous avez de la santé qui est vraiment...
J'ai 70 ans, là.
Et vous allez continuer.
Je lâche pas, monsieur. Parce que ce gars-là, ce gars-là, il n'a aucune pitié, il n'y a rien.
Non, mais là...
Il n'y a pas... Comment on appelle ça? On a fait une erreur, on admet l'erreur.
Oui.
Exactement.
On recule, vous voulez dire.
Ben, oui, c'est ça. Même l'enquêteur dans ce dossier-là, monsieur Saunier, là,
mais...
lui, les deux bras, ils ont tombé, ça, il n'en venait pas que le commissaire ait agi de main.
Oui, mais là, il faut dire une chose... Ce n'est pas, il faut bien saisir la chose que vous n'êtes pas les seuls. Alors, il y a des centaines et des centaines de personnes dans votre position qui malheureusement, qui ont perdu confiance totalement, je dis bien totalement, envers cette institution qui est la déontologie policière. Est-ce qu'il y aura aujourd'hui un moyen de faire changer ou d'apporter des changements à cette institution? C'est toute la grande question qu'il faut la poser.
C'est vous, de la Gouinée, que ça va changer?
Oui.
Quand il y aurait des gars comme vous, M. Hedge, au comité déontologie policière avec des avocats ou des personnes neutres, mais avec des organismes comme le Mouvement Action Justice qui sera là. Mais, là, ça va, mais tant que ça va être comme ça. Là,
que les citoyens participent à cette institution.
Et en plus, vous n'oubliez jamais affaire qui est vraiment, mais surtout, mesdames et messieurs, faites attention quand vous rencontrez un enquêteur du commissaire. Ne faites jamais confiance à cette personne.
Ouais, c'est bizarre.
Si vous lui donnez un document, donnez-y la copie, jamais l'original.
Ouais.
Parce que si vous lui donnez l'original et qu'elle lui tombe dans les mains, puis vous devez, vous voulez le revoir un an ou deux ans plus tard, vous l'aurez jamais, le commissaire vous le donnera.
Mais c'est grave.
Jamais.
Exactement.
Vous venez de la perte.
Vous nous insécurisez, M. Jean-Noël Mathieu.
Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, parce que moi aussi...
Dernier mot, ce qu'il dit, en deux mots, qu'est-ce que vous dites aux gens qui vous écoutent aujourd'hui? De les bras.
Moi, personnellement, qu'est-ce que je dis à toutes les personnes qui m'entendent? Ça prend des personnes comme vous pour dénoncer cette institution. Ça prend des personnes comme vous qui devraient travailler à cette institution pour en plus avoir justice.
C'est bien beau.
Vraiment.
C'est bien beau, des gars comme M. Hedge.
Exactement.
Mais si M. Hedge avait une subvention pour être capable de se payer des secrétaires puis des employés...
Ça, c'est autre chose.
On pourrait faire quelque chose.
Malheureusement, nous sommes rendus à la fin de cette émission et comme je l'ai annoncé au début, donc c'est notre dernière émission pour cette période. Nous allons probablement revenir de temps en temps d'ici le mois de septembre, date de notre reprise hebdomadaire. Alors, merci à nos deux invités, M. Jean-Noël Mathieu et M. José-Philippe Kendi, pour le courage, leur détermination surtout. Merci à notre technicien de son, Mélanie. Donc, elle nous a accompagnés ces derniers temps merveilleusement. J'aimerais remercier l'équipe de Radio Centre-Ville 102.3 FM, en particulier Mme Suzanne Charlon, pour sa patience et le sérieux. Alors, j'aimerais remercier aussi tous celles et ceux qui ont participé à nos émissions et à vous, chers auditeurs, chères auditrices, pour votre fidélité et l'intérêt accordé au sujet de nos émissions. À moi, je dis, ce n'est pas un travail facile d'être en face chaque jour devant des victimes. Leurs témoignages, leurs vécus, leurs souffrances, la carapace a quand même des limites. Alors, merci et à la prochaine. Continuez à nous appeler au 514-273-4302 ou bien nous écrire à info@commercialmage-québec.com et à la prochaine.
È una piccola fortuna che avevo raccolto, era tutto in pianto sul bordo d'un fosso. Quando mi ha visto passare si è messo a gridare: signore, raccoglietemi, da voi portatemi via. I miei fratelli mi hanno dimenticato, sono caduto, sono malato. Se non mi cogliete io morirò, ma che ballata! Vi parlo piccolo tenero, sottomesso io ve lo giuro. Signore, vi prego, liberatemi dalla tortura. Ho preso la mia fortuna, l'ho messa sotto i miei stracci. Ho detto non deve morire, vieni nella mia casa. Allora la piccola...
E' le Montréal touristique, le Montréal des manifestations culturelles. Mais on oublie souvent le Montréal patrimonial. Radio Centre-Ville vous invite à renouer avec Montréal et son histoire. Le 27 mai de 11h à 13h et les 28, 29, 30 et 31 mai de midi à 13h, le 102,3 vous présente les balades montréalaises. Une randonnée parmi les plus belles rues patrimoniales de Montréal.
Tim Tim, bois sec. Vos enfants aiment se faire raconter de belles histoires? Amenez-les à la grande bibliothèque où l'écrivaine et conteuse haïtienne Marie-Célie Agnan anime une heure du conte en créole les dimanches de mai de 15h à 16h. Cric, crac, c'est gratuit, mais il est préférable de réserver en personne à la grande bibliothèque ou sur le site web à banq.qc.ca. L'heure du conte en créole à la grande bibliothèque pour toute la famille. Tous les dimanches de mai de 15h à 16h. Nap tiré conte, nap chanté. Une présentation de groupe Banque TD.
Depuis le 27 janvier 1975, Radio Centre-Ville représente la diversité de Montréal. Nous donnons le micro pour permettre aux Montréalais et Montréalaises de se rencontrer. Le meilleur de l'actualité communautaire, locale et internationale est à Radio Centre-Ville. Nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.